Je le répète, vous êtes directrice de recherche à l'INRA Montpellier. Vous nous venez du sud de la France. Vous êtes, je le répète, spécialiste des relations de travail entre l'homme et l'animal. Et alors, est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que l'animal fait un retour durable dans la ville? Ça sera un peu la question qu'on va vous poser. Et puis, je crois que vous vouliez insister aussi sur le fait que l'animal revient en ville, notamment pour l'éco-pâturage, et qu'il travaille. Ça, c'est votre grand credo. Alors, vous souhaitez avoir la table, on va essayer de la mettre.
Donc je vais avoir une présentation un peu différente du point de vue formel, puisque je vais plutôt lire ce que je vais vous raconter, justement pour être plus clair et parler plus lentement, plus que ce que je fais d'habitude. Donc effectivement, la question de mon topo, c'est l'animal en ville, est-ce que c'est un retour durable? Si ça fait très bien suite à ce que vient de faire, je ne me rappelle plus de ton prénom, Alexandre. Alors, les expériences réussies d'éco-pastoralisme et le retour de ferme, le retour des animaux de ferme en ville dans de nombreux secteurs et pour de nombreuses fonctions peuvent laisser penser que ce retour est durable et viable économiquement. Or, ce retour me paraît encore bien fragile. D'une part, par défaut de conceptualisation du statut et de la place réelle des animaux dans le contexte de leur utilisation, les animaux, et on l'a vu tout au long de la journée, sont envisagés du point de vue de leur fonction et non pas de leur travail. D'autre part, l'évolution de la robotique et le développement de l'utilisation des robots dans de nombreux secteurs laissent apparaître les nouvelles machines que sont les robots comme de futurs concurrents des animaux au travail. Pérenniser le retour des animaux en ville et même simplement l'existence des animaux en ville, y compris des animaux de compagnie, passe donc par une réflexion sur le travail animal, sur sa valeur et sa richesse par rapport à celle des robots. Alors en ville, les animaux ont, donc on l'a vu toute cette journée, de nombreuses fonctions. Ils ont des fonctions d'entretien de l'environnement. Ils remplacent les machines, par exemple les tondeuses, et permettent un usage écologique de l'espace. Ils ont une fonction alimentaire. Ils fournissent directement ou indirectement des aliments. On l'a vu, le miel, les œufs des poules, les agneaux des moutons qui tondent les pelouses. Ils ont une fonction de traction, ils tirent les équipements qui permettent d'emmener les enfants à l'école ou de ramasser les poubelles. Ils ont une fonction d'éducateur qui est donc reliée à toutes ces activités. Qu'est-ce que c'est que la fonction? La fonction, c'est le rôle exercé par quelqu'un ou quelque chose au sein d'un groupe, d'une activité ou d'un ensemble. Les humains, les animaux, les machines, les éléments d'un ensemble donc ont des fonctions. Par exemple, une fonction d'encadrement dans une entreprise, une fonction de tondeuse pour un mouton, une fonction de mobilité pour une voiture, une fonction respiratoire pour les poumons. Cette fonction s'inscrit dans un ensemble et dans un contexte. Elle est reliée à d'autres éléments et à d'autres fonctions et au fonctionnement global du système. L'entreprise, le jardin public, le réseau routier, le corps. Mais le fait de remplir une fonction rend-il équivalent l'activité des humains, des animaux et le fonctionnement d'une machine ? En gros, qu'est-ce qui différencie un faucheur humain, une tondeuse et un mouton alors qu'ils remplissent en première analyse la même fonction, c'est-à-dire couper l'herbe? La différence qui apparaît tout de suite, évidemment, c'est que le faucheur travaille. Mais l'hypothèse qui n'a jamais été posée scientifiquement, et donc nous posons au sein d'une équipe que j'anime à Montpellier, c'est que le mouton travaille également, ce qui n'est pas le cas de la tondeuse. Et on l'a entendu tout à l'heure avec l'expérience de Cugnot, où monsieur, je ne me rappelle plus de son nom, a dit « les chèvres, elles travaillent bien ». Oui, justement, on ne dirait pas ça à propos d'une machine. Car qu'est-ce que c'est que travailler? L'idée commune, c'est que travailler, c'est une contrainte qui répond à la nécessité de gagner sa vie. La vraie vie, la vie qui serait libre, se trouverait en dehors du travail. Mais dans le contexte du management actuel, il faut reconnaître que c'est bien souvent le cas pour beaucoup d'entre nous. Le travail est devenu un lieu de souffrance que l'on aspire à quitter au plus vite. Pourtant, le travail n'a pas qu'une rationalité économique, gagner de l'argent. Il a surtout une rationalité relationnelle. Car travailler, c'est d'abord vivre ensemble, coopérer dans un objectif commun. Et le travail reste la première voie de reconnaissance et donc de construction de l'identité. C'est dans le travail que nous exprimons notre créativité, nos potentialités et que nous devenons quelqu'un de particulier, qui a des compétences reconnues, ou même des incompétences reconnues. C'est cette part irremplaçable du travail dans la construction de la subjectivité qui est mise à mal par le management actuel et qui fait souffrir les salariés. La plupart d'entre nous avons envie de travailler et de travailler bien. de contribuer à quelque chose qui nous dépasse, mais dont nous pouvons être collectivement fiers. C'est pourquoi, par exemple, la destruction d'une entreprise est une cause de souffrance pour les salariés. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas pourquoi les salariés défendent leur entreprise, quelle que soit l'entreprise. Ça va bien au-delà du salaire et de l'emploi, parce que c'est une partie de l'identité des salariés qui est mise à mal quand l'entreprise s'effondre. Donc il faut se rappeler que nous donnons beaucoup de nous-mêmes au travail, et beaucoup plus que le salaire qui nous est versé. Parce que le salaire n'intègre pas le fait que nous pensons, par exemple, à notre travail la nuit, ni que des collègues de travail peuvent être des amis, et que la réussite du travail dépend de notre coopération. La coopération, ce n'est pas quelque chose qui est prévu par les procédures du travail. La coordination, elle est prévue, c'est-à-dire le fait que X travaille avec Y, ça c'est de la coordination, mais la coopération, elle n'est pas prévue. Elle dépend de nous-mêmes et de notre volonté de bien faire. Alors, qu'en est-il pour les animaux ? Alors, les résultats de nos recherches montrent que c'est un peu pareil pour les animaux. Les animaux s'investissent dans le travail bien au-delà de la fonction qui leur est assignée. Et cette fonction elle-même ne saurait le plus souvent être remplie si les animaux ne s'impliquaient pas dans le travail. C'est le cas, par exemple, des chiens de berger, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Le chien de berger, il fait ce qu'on lui dit de faire, mais il fait bien au-delà. C'est aussi le cas, et c'est un terrain qu'on a travaillé dans le cadre de notre équipe, des chiens d'assistance, des chiens d'aveugles, s'investissent dans le travail, ça on peut le voir très, très explicitement, ou même des animaux de cinéma. Donc, c'est un terrain qu'on a travaillé avec Jean qui a intervenu ce matin. Un chien d'aveugle, il remplit différentes fonctions. Il assiste la personne dans ses déplacements, il apporte la télécommande du téléviseur, il ouvre le frigo. Il a été éduqué, il a suivi une formation, mais l'efficacité de son activité dépend de son implication dans son travail, de sa concentration, de sa rigueur, et de ses relations avec la personne qui l'a en charge. Alors évidemment, le chien est un bon exemple de cette implication des animaux dans le travail du fait des liens millénaires qui existent entre nous. Mais le travail concerne aussi les animaux de ferme. Ainsi, on peut considérer que les vaches travaillent, les vaches laitières. C'est un travail qu'on a fait avec une étudiante d'observer les vaches dans une exploitation avec un robot de traite du point de vue du travail, et on a vu que les vaches, effectivement, doivent respecter un ensemble de règles. Elles doivent collaborer entre elles, elles doivent collaborer avec l'éleveur, elles doivent faciliter son travail, anticiper sur ce qu'il va faire, etc. Un cheval qui tire une carriole, un cheval dans le cadre de l'éco-pâturage, là, qui tire une carriole avec des enfants, il travaille également. Il a appris à faire ce qu'il fait, mais donc sans la volonté de bien faire ou de ne pas bien faire, d'ailleurs, le travail serait beaucoup plus lent, voire ne pourrait pas être réalisé. C'est également le cas pour les moutons, hein. Les moutons qu'on a chien ce matin, mais les moutons aussi, ils doivent avoir une idée des règles et de ce qu'ils font là. Et c'est dans le cadre de la relation avec le chien, la relation avec l'humain, qu'ils peuvent comprendre effectivement leur rôle et le travail qui est attendu d'eux. Donc pour ce qui concerne par exemple le cheval qui tire la carriole des enfants, il a une fonction de traction, qui est en soi plus qu'une fonction, puisque en fait non seulement il tire la carriole, mais il regarde où il met les pieds, il évite les trous, il marche au bon rythme, il évite les trucs qui peuvent surgir au dernier moment. Et en plus il ajoute une part relationnelle, donc il est patient avec les enfants, il les mord pas. Et voilà, et tout ça c'est travailler. En fait c'est investir son intelligence et son affectivité dans une production à valeur d'usage. Et à valeur d'usage, et pas seulement à valeur marchande. Parce que c'est pas le paiement d'un salaire qui définit le travail. Quand vous travaillez dans une association, vous travaillez et pourtant vous n'êtes pas payé. Donc dans le cas qui nous occupe, à savoir les animaux en ville, il est important de prendre en compte et de mettre en avant ce travail des animaux et d'en tirer les conséquences concrètes, notamment du point de vue de la reconnaissance et des conditions de travail. Si le cheval territorial et le mouton dans un jardin public travaillent, à quelles conditions c'est ? Est-ce que les animaux sont dans un cadre qui correspond à leur bien-être et à leurs besoins ? Est-ce que le travail qui leur est demandé est cohérent avec leurs compétences ? À quel moment est-ce qu'ils s'arrêtent de travailler ? Et sur le plus long terme, quelle est la sortie prévue du travail? Est-ce que c'est la retraite ou est-ce que c'est l'abattoir? Alors je m'arrête juste un instant, et en plus il en a été question ce matin sur une notion là, que je viens d'avancer, qui est celle du bien-être. Donc ce que j'explique ici, à savoir que le travail doit être cohérent avec les besoins et les compétences des animaux, ça n'a rien à voir avec le bien-être animal en tant que problématique scientifique qui, elle, renvoie à l'éthologie et à la biologie. Le bien-être des animaux au travail et la question du travail des animaux elles-mêmes relèvent de la sociologie, de la psychologie du travail. C'est pas une question de stress ou de cortisol. C'est le bien-être interroge la cohérence donc entre ce qui est demandé à un animal et les conditions dans lesquelles il doit le faire. Il doit pâturer un jardin public, et ben dans quelles conditions qu'est-ce qu'on lui demande par rapport à ce qu'il peut faire? Donc ce bien-être au travail dépend du rapport subjectif des animaux au travail, de leur intelligence, de leur affectivité et donc des moyens qu'on leur donne, et pas justement donc de leur niveau de stress ou de leur taux de cortisol. Parce qu'on peut être stressé, oui, au travail dans certains moments, et pourtant on peut être très heureux au travail. Le stress, c'est pas forcément un indicateur de souffrance. Et c'est vrai aussi pour les animaux. Par exemple, un chien de berger, il y a des moments où il peut être très stressé, et pourtant il s'éclate complètement dans ce qu'il est en train de faire. Les animaux, quand ils sont au travail, ils savent qu'ils doivent atteindre des objectifs. Et même si le cadre est difficile et les contraintes de temps parfois très fortes, ils essayent d'atteindre, de faire ce qu'on leur demande. Parce qu'eux aussi, ils ont des intérêts à le faire, justement. Donc la problématique des animaux au travail, elle porte sur le travail, et puis sur les acteurs particuliers du travail que sont les animaux. Alors, c'est pas une question posée aux animaux, c'est une question qu'on pose au travail avec des acteurs particuliers qui sont donc les animaux, qu'on n'a jamais, je le redis, mais qu'on n'a jamais regardé du point de vue du travail. Alors qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Ben, évidemment d'abord qu'ils ne parlent pas, et donc on va pas faire comme avec un travailleur ordinaire, lui mettre un micro sous le nez et puis lui demander comment il se sent dans son travail et tout ça. Mais quand on va interroger des enfants, ils parlent pas non plus. Par exemple, il y a des psychologues et sociologues qui travaillent des enfants maternels. Les enfants maternels non plus, on va pas faire un entretien avec eux. Et pourtant, ça nous empêche pas de travailler avec les enfants et de voir ce qui se passe. Parce que ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est qu'on observe ce qu'ils font. Et nous, c'est ce qu'on fait dans le cadre de nos recherches, c'est-à-dire on regarde ce que les animaux font. Parce que ce qu'ils font, c'est directement lié à ce qu'ils ressentent et à ce qu'ils pensent. Qu'est-ce qu'ils font et comment ils le font. Et donc, observer le travail, observer les travailleurs, c'est ça, c'est voilà, regarder ce que les gens font, écouter ce que ils disent quand c'est des humains, regarder la cohérence entre ce qui est demandé et ce qui est fait, et surtout aussi voir ce qui n'est pas fait. Par exemple, dans le cas des animaux au travail, effectivement, ce que ne fait pas l'animal par rapport à ce qui est demandé, ou ce qui fait et qui n'est pas demandé, la part d'initiative et tout ça, évidemment, c'est très intéressant. Donc ces animaux au travail, actuellement, ils n'ont aucun statut. Par exemple, on le voit dans les présentations, on oscille toujours entre l'animal domestique, l'animal d'élevage, l'animal de ferme, l'animal de compagnie. Donc en fait, alors que tous ces animaux ont un point commun, c'est qu'ils travaillent. Donc en fait, ils n'ont pas un statut lié au travail. Alors que par exemple, les animaux dans le cadre de l'éco-pâturage ne sont pas des animaux de compagnie. Même si on voit, ils assurent un rôle de compagnie puisqu'ils ont un travail relationnel. Et ce n'est pas non plus des animaux de rente dans le sens agricole puisque le but, c'est pas de faire des agneaux... Et donc, il y a une ambiguïté là qui est très forte. Et il faut s'y intéresser parce que ça concerne évidemment les animaux en ville, mais ça concerne tous les animaux domestiques, animaux dits de ferme, animaux dits de compagnie, parce que ce qu'ils ont en commun, c'est d'être avec nous dans le travail. Et que ce soit des animaux de ferme ou des animaux de compagnie, c'est des animaux domestiques. Et on peut considérer, comme je le fais moi-même, que les animaux dits de compagnie, en fait, ils travaillent aussi. Ils font un travail de compagnie. Alors c'est un enjeu important donc de pérenniser cette place des animaux dans le travail et de leur donner un statut. De ne pas rester sur la question de on met des animaux, on fait de l'éco-pâturage, on donne une fonction aux animaux de tondeuse. en occultant complètement la question du travail et en occultant justement toutes les conséquences de ce qu'est le travail, notamment la reconnaissance des animaux et leur devenir après le travail. Et donc justement sur ce devenir après le travail, il faut mettre l'accent. Et enfin, j'ai rencontré des personnes qui font de l'éco-pâturage qui ont un problème à propos justement du retrait des animaux et de la mort des animaux. Parce que l'éco-pâturage, le rapport des animaux en éco-pâturage, c'est un rapport d'éleveur. Moi, j'ai été éleveur moi-même. Il s'agit de faire de l'élevage. En fait, il s'agit de faire de l'élevage par des personnes qui n'en ont pas fait. Qui n'ont pas. Et en plus, justement, parce qu'il y a une ambiguïté sur le statut de l'animal qui est ramené à une fonction, on fait comme si ce n'était pas de l'élevage, c'était autre chose. Enfin voilà, il y a un énorme flou et qui fait que la question de la mort, elle est encore plus floue que le reste, quoi. La question de la mort, de la destinée des animaux. La fin de vie des animaux en élevage, elle est anticipée par l'éleveur. Et donc, un éleveur, il sait que ces animaux, par exemple, s'il élève des moutons, il sait qu'il va emmener ses moutons à l'abattoir. Ça ne veut pas dire que c'est réglé ni facile. Au contraire, en ce moment, il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine. Mais voilà, c'est clair. Alors que pour ce qui concerne tous ces animaux dans le cadre de l'éco-pâturage, évidemment, il y a une ambiguïté, puisque le but, c'est pas de faire des agneaux, mais n'empêche qu'il y a des agneaux qui naissent. Et qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on intègre cette question de l'abattage des animaux et, par exemple, de la consommation carnée dans le cadre de la place des animaux en ville, etc. Donc ça, c'est aussi une grande question qui est directement reliée au travail, hein, parce que justement, prendre en compte ce statut des animaux en ville au travail, c'est aussi intégrer la question de la fin du travail. Voilà, si on ne veut pas abattre les animaux, il faut leur donner une retraite. Voilà, et donc il faut des pâturages, il faut des ressources. Enfin voilà, c'est des choses, tout ça, à anticiper et à penser. Par ailleurs, justement, parce qu'il y a cette ambiguïté du statut de l'animal et le fait que, en fait, il s'agit de faire de l'élevage, mais sans que ce soit vraiment très clair, il y a tout un problème de compétences. Et de reconnaissance aussi des personnes qui travaillent dans ce champ-là. Alors pourquoi aussi c'est important de considérer la place des animaux dans le travail comme un travail, et notamment donc dans cette histoire d'animaux en ville? C'est parce qu'à l'heure où les animaux qui ont été historiquement chassés des villes par l'urbanisation et par la mécanisation qui font un retour dans le champ du travail, il y a d'autres acteurs qui apparaissent, qui sont portés par une nouvelle révolution industrielle, c'est celle du numérique et de l'industrie 4.0, et c'est les robots. Dans de nombreux secteurs du travail, les robots sont imposés comme des acteurs incontournables et évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rentables que les animaux. Alors, je vous rappelle juste, mais je pense que vous l'avez déjà vu, que les analyses prospectives pronostiquent dès la prochaine décennie, un grand nombre de travailleurs seront remplacés par des robots, travailleurs humains, lesquels permettront de produire plus vite, plus efficacement, plus longtemps et à plus bas coût. En France, on évalue à 10% le nombre d'emplois qui sont directement menacés par la numérisation, mais à près de 50% le nombre d'emplois dont le contenu va beaucoup évoluer, en fonction justement de la numérisation de l'emploi. Il y a d'autres chiffres qui annoncent des pertes d'emplois beaucoup plus importantes. Alors les emplois les plus concernés, c'est-à-dire pour lesquels les travailleurs risquent d'être très prochainement remplacés par les robots, c'est évidemment les emplois ouvriers dans les industries de process. Vous voyez comment fonctionne une entreprise de construction d'automobiles, on le voit bien, l'essentiel du travail est fait par des robots. Mais aussi dans le bâtiment, dans la manutention, mais aussi un grand nombre d'emplois dans les entreprises, par exemple à l'accueil, à la comptabilité, des emplois dans les cafés, les serveurs vont être remplacés par des robots, dans les restaurants, les cuisiniers peuvent très bien être des robots, dans les supermarchés, dans les caisses, dans la mise en rayon, dans le nettoyage, dans les banques, les analystes financiers déjà, ils commencent à être remplacés par des robots, les agents de change à la poste, dans les bibliothèques, les taxis, enfin voilà, énormément d'emplois vont être remplacés par des robots, et notamment aussi les emplois d'aide à la personne, par exemple les aides-soignants, les aides à domicile, les employés de maison. Certains métiers de l'agriculture aussi peuvent être notamment robotisés, et surtout dans les productions végétales. Par exemple, en agriculture verticale, il y a des entreprises où ils fonctionnent quasiment qu'avec des robots. Les humains interviennent. J'en ai une entreprise à laquelle je pense au Japon. Les humains interviennent juste pour mettre les plants dans les machins. Et en fait, ils produisent des millions de salades avec des robots. Donc ce passage à l'usine intelligente, et notamment le remplacement des travailleurs par les robots, est évidemment justifié par leurs promoteurs, par la recherche constante d'accroissement de la productivité et l'optimisation de la production. Les robots sont plus performants, ils sont plus fiables, ils ne tombent pas malades, ils ne font pas grève, ils ne demandent pas d'augmentation de salaire et ils n'exigent pas de retraite. Donc si les robots prennent le travail des humains, il faut le voir, ils prennent également et de façon beaucoup plus marquée, bien qu'invisible socialement, le travail des animaux. De façon invisible, parce que comme les animaux sont encore des êtres sans existence sociale, et comme ils ne sont pas reconnus, comme je l'ai montré dans le travail, évidemment, ce remplacement des animaux par les robots, il passe inaperçu. Alors donc, le développement des robots, c'est un enjeu pour le travail des humains, c'est vraiment un enjeu pour le nôtre, parce que c'est aujourd'hui que ça se passe, mais c'est plus pressant quand on travaille avec des animaux, puisque ces animaux avec qui on travaille, ils sont tendanciellement remplacés par des robots. Alors c'est un enjeu parce qu'ils vont être, s'ils sont exclus du travail, ils sont exclus des villes par exemple, et ils sont exclus de nos vies, quoi. Alors évidemment, enfin je vais donner des exemples qui ne sont pas liés forcément à l'éco-pâturage, mais je pense qu'il faut bien voir que ces moutons tondeurs, ils peuvent être très bien remplacés par des robots. C'est pas le fait qu'ils vont manger les broussailles qui va arrêter les robots. Les robots aujourd'hui, on ne parle pas de robots basiques qui savent faire 3-4 choses. C'est des robots construits avec des recherches sur l'intelligence artificielle qui sont très très compétents. En fait, les robots aujourd'hui, c'est pas c'est pas les robots de la science-fiction d'hier, c'est vraiment des entités qui ont des potentialités énormes, quoi. Donc, ce que je raconte, ça concerne ce que je vais dire, là, par exemple, dans les maisons de retraite ou dans les familles, mais évidemment, c'est partout qu'on peut penser que les robots vont arriver. Alors, bon, je le développe pas, mais je vais le dire maintenant, c'est que évidemment, pourquoi il y a cette évolution, c'est une question de gros sous, quoi. Si vous faites travailler une chèvre, on a vu là en éco-pâturage les coûts et le côté économique de toute cette affaire, il n'y a pas de valeur ajoutée derrière. Alors que si vous faites intervenir des robots, évidemment, là, on n'est plus du tout dans le même business model. C'est tout autre chose. Alors, pour montrer où déjà sont les robots, ils sont par exemple déjà dans les maisons de retraite. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais par exemple le robot Paro, qui est une espèce de robot qui ressemble à un phoque, à une grosse peluche phoque, il est déjà utilisé en médiation animale, il est déjà utilisé dans les écoles, dans les maisons de retraite et dans les hôpitaux. Alors je cite, c'est un robot émotionnel interactif qui est capable de susciter de la tendresse. Donc il a l'aspect d'un bébé phoque afin d'éviter la confusion avec un animal familier robotisé. Néanmoins, je cite, Paro présente les avantages reconnus de la zoothérapie, réduction du stress et de l'anxiété, augmentation de la confiance et des interactions sociales, en offrant une utilisation plus flexible et moins contraignante, évidemment, puisqu'il est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qu'il n'y a pas besoin d'entretien ou de problèmes liés à l'hygiène et à la sécurité. Comme le dit un vendeur à propos d'un autre robot, c'est l'amour sans les croquettes et sans la litière. Et donc, je cite, Paro peut communiquer aux patients des émotions telles que la joie, la surprise ou le mécontentement. Et donc, ça, c'est pas ce robot. Je connais quelqu'un qui travaille en médiation animale et qui maintenant, dans la maison de retraite où elle travaille, est déjà confrontée à l'arrivée de ces robots. Donc elle travaille avec une équipe d'animaux. Et bien voilà, dans l'offre de ce qui est proposé à la maison de retraite, il y a des gens qui arrivent avec ce robot Paro qui est supposé communiquer aux patients des émotions telles que la joie. Et c'est pareil pour la famille. En tendance aussi, les concepteurs construisent des robots pour remplacer les chiens à la maison. Par exemple, un robot que vous pouvez trouver l'exemple sur Internet qui s'appelle Chip, je cite, qui est le robot chien le plus adorable du monde. Il est intelligent et affectionné. Chip est toujours à l'écoute et prêt à jouer. Voilà. C'est, Chip est le nouvel, c'est ça leur slogan, Chip est le nouveau meilleur ami des enfants. Il a toutes les qualités d'un vrai chien. Il montre de l'affection, apprend de nouvelles astuces et aime jouer. Alors je sais pas, je pense que chacun dans le domaine dans lequel vous travaillez avec les animaux, vous pouvez voir dans quelle mesure les animaux peuvent être remplacés par des robots. Mais enfin, je peux le dire, c'est par exemple la personne que je connais qui travaille en médiation animale et s'attendait pas du tout à être confrontée à des robots aussi vite et avec autant d'efficacité. Donc l'arrivée des robots dans le travail et dans notre vie quotidienne met en évidence la spécificité de l'implication des animaux dans le travail. Parce que si les robots peuvent occuper des fonctions occupées jusqu'alors par des humains et des animaux, peut-on dire pour autant que les robots travaillent? Parce que c'est ça le paradoxe aujourd'hui, c'est que les robots arrivent alors qu'on n'a pas encore compris quelle relation on avait dans le travail avec les animaux. Et d'ailleurs, on est en train de construire des règles de droit éthique de nos relations vers les robots, alors qu'on n'a pas fait la même chose avec les animaux après 10 000 ans de domestication. Donc ça va très vite. Voilà, c'est... Alors, est-ce que les animaux travaillent? Pour moi, la réponse est non, évidemment. Les robots ne travaillent pas, ils fonctionnent. Ils occupent une fonction, eux, contrairement aux animaux, et ils ne font que cela. Parce qu'il n'y a personne dans la machine, il n'y a personne dans le robot, il n'y a pas de subjectivité, il n'y a pas d'affectivité, il n'y a pas de projet, et il n'y a pas de doute. Il y a une programmation, alors elle est super sophistiquée, parce que vraiment les gens qui travaillent sur l'intelligence artificielle sont très forts, mais ça reste une machine, même si elle peut s'auto-programmer, même si elle peut s'auto-réparer, même si elle peut s'auto-former, etc. Il n'y a personne à l'intérieur de la machine. Et donc, c'est d'autant plus important de comprendre l'importance de la mise au travail, de la mise en évidence du travail chez les animaux. Donc la mise au travail par rapport, par exemple, à l'éco-pâturage, montrer que ces animaux qui interviennent en ville avec lesquels vous travaillez, ils n'ont pas seulement une fonction. Justement, ils travaillent. Et c'est cette question, cette mise en évidence du travail qui fera que peut-être vous éviterez qu'ils soient remplacés par des robots. Alors pour ce qui concerne les œufs et les poules, parce qu'il a été question des œufs et des poules, donc là évidemment c'est pas un robot qui va remplacer les poules pour pondre des œufs, mais c'est les produits de la food tech, c'est pareil, c'est quand même, on est quand même dans l'industrie 4.0, les produits de la food tech qui permettent d'éviter la mort des animaux et donc leur supposée exploitation, et les substituts aux produits animaux, par exemple les substituts d'œufs justement. Il y a des dizaines de start-up aujourd'hui qui sont soutenues par les plus grandes multinationales et les plus grands fonds d'investissement qui travaillent en ce sens et qui proposent déjà du poulet sans poulet, du jambon sans porc et qui préparent aussi la viande in vitro. Et donc ces entreprises sont soutenues par des associations anti-viande qui prétendent donc libérer les animaux, ce qui revient en fait à ne plus vivre du tout avec eux. Donc c'est ça que je veux montrer, c'est que cette éviction des animaux dans le travail, de service, eh bien, elle existe aussi dans le travail des animaux de production. Le lait de soja qui remplace le lait de vache, les faux œufs qui remplacent les vrais œufs, la viande in vitro qui remplace la viande. Il y a un processus, on est actuellement dans un processus d'effacement des animaux dans le travail. Et donc, pour ce qui concerne l'alimentation, évidemment, toutes les associations qu'on entend à longueur d'antennes et de journaux qui veulent libérer les animaux et qui nous rendent coupables de manger de la viande, elles servent évidemment ce développement vers l'industrie 4.0. Et c'est elle qui prépare l'alimentation de demain, donc celle que vont nous imposer les multinationales en lieu et place de l'élevage, des paysans et de leurs animaux. Car ni les associations abolitionnistes ni les start-up ne font la différence entre l'élevage et les productions animales industrielles. Ce qu'on voit, ce que disent les associations pour nous pousser à arrêter de manger de la viande, c'est qu'ils nous montrent des horribles images d'animaux maltraités dans les productions animales. Alors, l'élevage, c'est pas du tout ça. L'élevage, ça ressemble plus à ce que les gens essayent de faire dans l'éco-pâturage, c'est-à-dire travailler avec des animaux, faire de la relation, faire des liens entre les territoires et cette relation aux animaux, éduquer et faire grandir. Voilà, c'est ça l'élevage. Et l'élevage, justement, et c'est alors un enjeu à la fois de comprendre que ces animaux qui sont impliqués dans les en ville, c'est des animaux au travail, mais c'est aussi des animaux qui s'inscrivent dans ce processus historique sur le plus long terme, qui est l'élevage. Parce que l'élevage, c'est un rapport de travail aux animaux qui est une richesse collective. Et c'est un bien commun qu'il faut préserver, donc, si on veut continuer à vivre avec des animaux domestiques, y compris avec des chiens et des chats, puisque c'est aussi des animaux domestiques, et que leur destin avec nous est le même que celui des vaches et des moutons. Donc la place des animaux en ville, c'est aussi plus largement donc la place des animaux domestiques dans les rapports sociaux et dans nos vies. Parce que nous vivons avec des animaux domestiques depuis 10 000 ans. Les animaux sont une part centrale de notre histoire humaine, mais aussi de notre identité. Défendre la place des animaux dans les villes et dans nos vies, c'est un enjeu de nos relations, mais c'est aussi un enjeu de société. Car aujourd'hui, et c'est vraiment aujourd'hui, notre avenir se dessine sans les animaux. Et c'est à nous de dire si réellement on veut suivre les multinationales et ceux qui prétendent les libérer, ou si on veut continuer à vivre avec des animaux. C'est ça vraiment le choix politique qui est posé aujourd'hui. C'est est-ce qu'on veut vivre avec des animaux et accepter et assumer la mort des animaux, ou est-ce qu'on veut vivre avec des robots et manger de la viande in vitro? Et donc, si on veut vivre avec des animaux, donc il faut défendre ces liens domestiques et surtout nous libérer de la commune exploitation qui fait que justement il y a ce rejet de nos liens aux animaux. Donc il faut défendre la richesse de ce que nous apportent les animaux dans le travail, donc, et reconsidérer ce que nous leur rendons. Parce que si nous voulons vivre avec les animaux, donc il faut revisiter nos relations et être à la hauteur des animaux. Et ça aussi, c'est un enjeu de l'animal en ville. C'est que si les animaux travaillent, il faut savoir et comprendre ce qu'on leur rend et quel est leur intérêt à continuer à vivre avec nous. Donc en gros, je résume pour finir, il y a dans cette question de l'animal en ville, et particulièrement dans l'éco-pâturage, il faut s'interroger sur le fait que cet animal qui est au travail, et justement au travail, il ne remplit pas une fonction, il effectue un travail, et s'il effectue un travail, il faut s'interroger sur les règles du travail. Et d'autre part, c'est urgent, parce qu'en tendance, ces animaux vont être remplacés par des robots. Voilà, je vous remercie.
Merci. Jocelyne Porcher. Alors effectivement, le statut du travailleur, l'animal en tant que travailleur dans l'éco-pâturage, la fin de vie de l'animal aussi dans le cadre de l'éco-pâturage, et puis le transhumanisme, hein, vous en avez parlé, donc avec l'arrivée des robots, j'imagine que ça suscite des questions. Qu'est-ce que vous voulez poser comme question donc à Jocelyne Porcher pour finir? Et je vais déjà inviter l'équipe de ENT à me rejoindre pour conclure après. Qui est-ce qui veut poser des questions à Jocelyne Porcher? Alors, deux, si vous voulez approcher, on va commencer ici. Je suis désolé.
Non, c'est juste une remarque sur les robots. Aujourd'hui, nous, on utilise les robots aussi. On fait de l'éco-pâturage et ils sont super complémentaires au travail des moutons dans des endroits où on ne peut pas mettre les moutons. Donc, les robots sont aussi, acceptés dans la société d'aujourd'hui avec l'animal. C'est juste un exemple que je donnais.
Dire oui, pour l'instant, ils sont...
Robots de tonte, je parlais.
Oui, mais ils sont complémentaires pour l'instant.
Mais ils resteront en tout cas chez nous.
La complémentarité plus que la concurrence. Alors, pareil, s'il vous plaît.
Oui, bonjour, merci. Manifestement, à l'INERA, vous ne plantez plus de substances illicites, semble-t-il. Votre dessin funeste m'inquiète. Par contre, vous avez, en espoir, j'ose imaginer que l'espèce humaine va résister, comme les Gaulois le faisaient à une époque. Est-ce que le mal-être que vous avez soulevé dans le travail, au jour d'aujourd'hui, beaucoup de cadres font des burn-out, abandonnent leur carrière prometteuse. La souffrance au travail prend de l'expansion de plus en plus. Est-ce que ce phénomène-là risque pas de ralentir ce dessin funeste que vous nous avez dépeint, qui malheureusement, je pense, est nous pend au nez, hein. Mais est-ce que vous pouvez nous donner un peu d'espoir avant de partir?
C'est-à-dire que moi, personnellement, je suis très pessimiste. S'il ne se passe pas quelque chose, on est sur des rails. Et ceux qui dirigent tout ce mouvement, ben, c'est eux qui ont... Voilà, derrière toutes ces innovations, Il y a la fondation Bill Gates, il y a les plus grands fonds d'investissement. Donc, la première des choses, c'est de se rendre compte des enjeux et des risques, et chacun à son niveau. Maintenant, je pense pour ma part que c'est foutu, que les animaux vont disparaître de nos vies, que les animaux domestiques ne sont plus assez rentables pour le système, et qu'effectivement ils peuvent être remplacés dans l'alimentation avec un petit peu de vitamine B12, et puis voilà. Et puis que effectivement ils peuvent être remplacés par les robots. Là, les robots sont pas assez sophistiqués pour remplacer tout, mais maintenant ça n'empêche pas de lutter contre. C'est pas parce qu'on pense que la bataille est perdue qu'il faut pas la batailler.
Alors, une question là-bas, par contre, si vous voulez approcher pour qu'on vous entende, on va pas vous entendre. Hein. Le salut vient-il des énergies renouvelables? On élargit le débat, là, en tout cas.
Oui, non, je sais pas, mais je pense qu'on peut très bien faire fonctionner un robot à l'énergie solaire. Enfin, je sais pas. Je pense que les concepteurs de ces robots ont bien ça en tête aussi. Hein, je sais pas si c'est vraiment une limite au développement des robots.
Oh, est-ce qu'il y a des questions encore? Oui, Vincent Bourret, là-bas, c'est très bien. Ça va être un bon lien. Ça va peut-être être la dernière question.
Alors, j'ai bien compris tout l'enchaînement. Je m'interroge, peut-on penser que, avec la société antinaturelle qui va être créée, les robots vont pas être un équilibre naturel qui va se recréer avec une redemande des humains, des administrés, pour retendre vers un peu plus de naturel? Justement pour compenser ça, parce que tout le monde s'en rend bien compte qu'on va vers des smart cities et tout ça, est-ce que naturellement, vous croyez vraiment pas que l'humain va redemander un peu de naturel pour compenser cet anti-naturel via les animaux?
Si, c'est déjà ce qu'on, je pense, c'est déjà ce qu'on voit là. Par exemple, justement, ce développement de l'animal en ville, c'est en fait un mouvement souterrain pour résister à l'effacement des animaux tout court. Mais sauf que là, actuellement, c'est des processus qui se heurtent, mais qui sont, d'un côté, on a un développement du numérique, de l'industrie 4.0 très, très conscient, très visible, puis de l'autre, une défense des animaux qui est souterraine et pas perçue comme telle. Je pense que collectivement, on sent bien que notre vie avec les animaux, elle est en danger, mais on le conceptualise pas, on le réalise pas vraiment, et on ne réalise pas surtout à quel point. Et donc, c'est un enjeu de le réaliser, pour justement sensibiliser à cette vie animale avec nous et résister à la numérisation de nos vies. Quoi. Ça me paraît très... Mais il faut déjà en prendre conscience avant de... C'est pour ça que j'insiste sur le fait que ces animaux qui travaillent en ville, il faut qu'ils soient bien pris sur la question du travail.
Oui, pour rebondir sur un peu les trois dernières questions, c'est un peu une demande de note d'optimisme, et je suis tout à fait d'accord avec les réponses qui ont été dites, mais il y a quelque chose d'autre aussi, c'est agir contre, c'est bien, ça fait partie du processus, mais le fait que vous soyez tous là et que chacun vous ayez vos projets et que vous agissez aussi pour les solutions fait que peut-être que la machine, les robots, le business... international va tout faire s'effondrer, qu'on n'aura pas assez d'énergie, que même le renouvelable ça suffira pas et que du coup il faudra du mouton. Mais le fait qu'on fasse retourner l'agriculture dans la ville et les animaux dans la ville, ça permet de mieux ça permet de la résilience, c'est-à-dire que si un choc arrive à la ville, que peut-être que c'est pas on n'aura plus d'énergie pendant des années et des années, mais si on a déjà plus d'énergie pendant 3 jours, 4 jours, 2 mois sur la ville de Paris, il n'y a rien à manger. Et donc ça, c'est une des raisons qui font que c'est intéressant de même faire des petites initiatives qui deviennent de plus en plus grosses, même si elles ne grandissent pas aussi vite que la fondation Bill Gates. Ça reste intéressant parce que ça permet à une ville de résister à des chocs de plus en plus grands. Et alors, il y a l'aspect de résister à un choc, c'est-à-dire si on n'a plus d'énergie pendant 3 jours, on n'a rien à manger, ben non, on a quand même un petit peu de résistance parce qu'on a quelques projets d'agriculture urbaine, d'éco-pâturage et autres qui permettent de faire de la traction animale et compagnie. Mais il y a aussi le fait de maintenir un savoir-faire. C'est que moi, je travaille beaucoup avec des architectes et des municipalités juste parce que la plante et l'animal, ils connaissent rien du tout. Mais vraiment rien du tout. Ils planteraient, ils sèmeraient des courgettes... en octobre, quoi. Donc, ils y connaissent plus rien, quoi. Et donc, le fait de maintenir ces projets-là, l'animal en ville et toutes ces variétés que vous défendez ici, bah, c'est un message d'espoir, mais pas seulement. Ça a vraiment un effet positif pour aller dans un meilleur sens, mais aussi pour résister à des chocs plus importants.
Merci pour cette petite note d'optimisme. Merci aussi à vous, Madame Porcher, pour votre intervention.